Bonjour bien-aimés. Voilà, nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce d'être dans sa présence. Et moi, je me réjouis d'être une fois de plus dans l'église du Dieu vivant, de pouvoir à nouveau communier avec l'église de Créteil. Et je suis vraiment dans la reconnaissance devant ce que Dieu fait pour chacune de nos vies, pour chacune de nos familles. Et c'est vrai qu'il y a des temps difficiles dans certaines de nos familles, il y a des épreuves, les épreuves de décès, de maladie, mais nous voulons regarder à Dieu. Ces choses font partie de nos vies à cause du péché originel, malheureusement. Mais le Dieu qui veille, il ne sommeille ni ne dort. Il est fidèle et nous pouvons compter sur sa grâce. Nous pouvons crier à lui et espérer de lui la délivrance. Et dans l'épreuve, le courage qu'il donne pour traverser l'épreuve. Alors que le nom de Dieu soit béni. Et que ce matin, il nous aide à entendre cette parole, commentée bien sûr par moi. Et que ce commentaire de la parole de Dieu puisse être utile à chacune de nos vies, dans nos situations diverses et variées, avec nos âges aussi qui sont variés. Que Dieu nous fasse la grâce de l'entendre ce matin nous parler. En août dernier, j'avais commencé à exposer le prophète Agée. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Et Agée se présente comme l'un des prophètes après l'exil d'Israël. Et il vient en quatrième position, vers la fin en tout cas, dans ce qu'on appelle les petits prophètes. Donc après le livre d'Agée, vous avez Sophonie, vous avez du moins Zacharie et Malachie, donc en troisième position, vers la fin. Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Et c'est comme ça que s'achève l'Ancien Testament. Et je vous avais donné une situation de contexte que je ne referai pas là. Si vous voulez réécouter ce contexte, les messages sont sur nos sites. Hein. Vous pouvez le réécouter, c'est le message du 15 août dernier. Et j'aimerais aujourd'hui finir avec ce livre de ce petit prophète. Petit, pas parce qu'il était petit de taille, pas parce que l'impact qu'il a eu était petit. Petit parce qu'il n'a que deux chapitres. Il n'y a que deux chapitres, mais deux chapitres bien denses. Et la brièveté de son ministère prophétique a eu un impact incroyable en Israël. Agée est un prophète qui a remué son peuple dans une situation particulière. Et j'aimerais que nous puissions lire le chapitre 2. Je donnerai quelques rappels de ce que nous avons vu au chapitre 1 et j'apporterai l'éclairage sur le chapitre 2 pour notre temps ensemble ce matin. Agée, chapitre 2 à partir du verset 1. Le 21e jour du 7e mois, la parole du Seigneur parvint par l'intermédiaire d'Agée, le prophète. Dis, je te prie, à Zorobabel, fils de Shéthiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yosadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée? Et comment la voyez-vous maintenant? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas? Maintenant, sois fort, Zorobabel, déclaration du Seigneur. Sois fort, Josué, fils de Yosadak, grand prêtre. Sois fort, peuple du pays tout entier, déclaration du Seigneur. Et agissez, car je suis avec vous. Déclaration du Seigneur des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte et mon souffle qui se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur, car ainsi parle le Seigneur des armées. Encore un peu de temps, très peu, et je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations. Les biens les plus précieux de toutes les nations viendront et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclaration du Seigneur des armées. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je mettrai la paix. Déclaration du Seigneur des armées. Le 24e jour du 9e mois, la deuxième année de Darius, la parole du Seigneur parvint à Agé, le prophète. Ainsi parle le Seigneur des armées. Demande au prêtre une loi à ce sujet, je te prie. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la viande sacrée et qu'il touche avec le pan de son vêtement du pain, un plat, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, celui-ci sera-t-il consacré? Les prêtres répondirent non. Et Agé dit, si quelqu'un est devenu impur au contact d'un cadavre et qu'il touche une de ces choses, celle-ci sera-t-elle impure? Les prêtres répondirent, elle sera impure. Alors Agé dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, déclaration du Seigneur. Tel est tout le travail de leurs mains, ce qu'ils présentent devant moi est impur. Maintenant, faites attention, je vous prie, à ce qui va se produire à partir de ce jour et par la suite. Avant qu'on ait mis pierre sur pierre dans le temple du Seigneur, alors, quand on venait à un tas de grains de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait au pressoir pour tirer 50 mesures d'un foulage, il n'y avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle, ainsi que tout le travail de vos mains, sans vous ramener à moi. Déclaration du Seigneur. Faites attention, je vous prie, à ce qui va se produire à partir de ce jour et par la suite. Depuis le 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple du Seigneur a été fondé, faites-y attention. Y a-t-il encore de la semence dans la grange? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. À partir de ce jour, je vais bénir. Amen. Voilà un texte qui paraît un peu obscur pour les chrétiens du 21e siècle. Parce que ce qui est dit dans ce texte est loin de notre civilisation. Et parfois, nous ne comprenons pas tout ce qui est dit dans ce texte par rapport à cette prophétie. Je vous l'avais indiqué dans l'introduction. Agé est un prophète que Dieu suscite après l'exil. Après l'exil, c'est un temps difficile pour Israël. Le peuple a été battu, le peuple a été démonté. Les enfants d'Israël les plus valeureux ont été arrachés de leur terre. Ils ont été dispersés en exil un peu partout. Le temple où ils adoraient Dieu a été détruit. Et 70 ans après, ils sont revenus sur cette terre-là, où ce temple était encore en ruine. Et ils avaient repris ce travail. Sauf que ils ont arrêté de construire ce temple quand le Seigneur suscite encore Agé. 12 ans se sont écoulés après qu'ils aient recommencé à reconstruire le temple. Ils ont baissé les bras à cause, bien sûr, de l'opposition. Mais Agé dit, c'est pas que ça. Agé dit aussi à cause peut-être de la négligence. Il dit bien des choses. Et donc, Dieu leur demande de rebâtir le temple parce que leurs conditions était déjà une condition de victoire parce qu'ils revenaient sur les territoires et Dieu voulait restaurer son peuple. Mais le peuple avait encore pas tout à fait bien compris que le péché est quelque chose que Dieu a vraiment en horreur. Que Dieu aime son peuple, mais que Dieu a horreur du péché. Et ce péché qu'il avait pardonné et qui avait pris 70 ans, il y avait encore des restes qui n'étaient pas comme quand il les a laissés à leur propre sort, mais il voulait que ce peuple comprenne qu'avec Dieu, il n'y a pas de compromission, que c'est vraiment une alliance éternelle, une alliance de sanctification. Et alors, dans les premiers chapitres, Agé avait encouragé le peuple à refuser de se donner plein d'excuses pour ne pas continuer à reconstruire le temple. Il disait, ce n'était pas encore le temps de continuer à la restauration de ce temple. Et j'ai dit, mais d'accord, mais si ce n'est pas le temps, si vous dites que les temps sont difficiles et que vous ne pouvez pas rebâtir le temple qui représente la présence de Dieu au milieu de vous, d'où sortez-vous les moyens pour rebâtir vos propres maisons? Et de plus, vos maisons, vous les bâtissez avec des matériaux très chers. Alors que dans le même temps, la maison de Dieu, vous dites, ce n'est pas encore le temps. Et Dieu dit, expliquez-moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Et le prophète interpelle le peuple par rapport peut-être à une forme d'égoïsme et par rapport à des excuses qui sont trop faciles pour ne pas continuer de rebâtir ce temple qui, du reste, manifeste la présence de Dieu. Et la leçon que je nous ai encouragé à ressortir au travers de ce premier chapitre, c'était que nous devions examiner soigneusement notre propre vie pour nous assurer que nous faisons la volonté de Dieu. Dieu n'accepte pas les excuses que nous nous trouvons pour retarder l'accomplissement de son œuvre ou pour vivre dans l'indifférence ou dans le laisser-aller spirituel. On peut dire, hélas, dans notre parcours de vie chrétienne, parfois, dans notre parcours de vie d'église, parfois, combien cette parole est fréquente parmi nous. Après avoir œuvré avec dynamisme, avec force, après avoir pris soin de nos vies chrétiennes, il y a des moments, malheureusement, où on a l'impression que nous laissons tout tomber et que nous laissons tout en friche, que nous laissons tout en ruine parfois, parce que nous sommes découragés, parce que les circonstances de la vie semblent être difficiles, parce que peut-être dans l'Église, nous avons vécu quelque chose de difficile. Demandons-nous alors si ce découragement n'est pas un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu et à la fidélité de notre Dieu. Et le prophète nous fait remarquer qu'il faut faire attention. Tous les découragements qui nous arrivent par rapport à une vie d'église dynamique, tous les découragements qui nous arrivent dans nos vies individuelles en tant que chrétiens, dans nos vies de famille chrétienne, essayons d'être vigilants parce que ces découragements-là ne viennent pas de Dieu. Et bien souvent, elles sont l'œuvre de l'opposition de l'ennemi, mais aussi peut-être d'une forme de sommeil spirituel dont nous devons nous réveiller. C'était le premier enseignement que je vous ai encouragé à tirer de ce premier chapitre. Le deuxième enseignement, c'était d'établir des priorités. Établir des priorités. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Donc le prophète interpelle le peuple, invite le peuple à réfléchir à leurs priorités dans ce premier chapitre. Il dit, c'est vrai que peut-être vous êtes revenu de situations très difficiles, mais je l'ai fait quand même, je vous ai fait revenir. C'est vrai que tout n'est pas encore parfait depuis que vous êtes de retour sur ce territoire qui est le vôtre, et pourtant, vous trouvez, par ma grâce, à restaurer vos vies individuelles, vos vies de famille, et malgré ça, vous avez arrêté de rebâtir ce temple alors que vous étiez bien engagé à le faire. Est-ce que vous avez changé de priorité? Parce que quand vous êtes revenu, vous avez compris que la priorité, c'était aussi que ce temple soit rebâti, pour que ma présence soit de nouveau au milieu de vous. Avez-vous changé de priorité? Puisque vous avez abandonné la reconstruction de ce temple, et que vous continuez à bâtir vos propres maisons. Si vous aviez été logique, vous auriez aussi dû arrêter de reconstruire vos propres maisons, puisque vous dites que le temps n'est pas favorable. Vous avez changé de priorité. Et le prophète nous interpelle. Parfois, le manque de zèle et d'amour pour l'œuvre de Dieu va de pair parfois avec le souci de notre propre confort. Il n'est pas mauvais de chercher un confort, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il est intéressant que lorsque nous cherchons à satisfaire nos besoins, et Dieu sait que nous en avons besoin, il est important que nos vies chrétiennes ne soient pas laissées pour compte. Il est important que notre vie d'église ne soit pas laissée pour compte. Il est important que notre engagement chrétien ne soit pas laissé pour compte. Or, parfois, il semble que c'est tellement insidieux que malheureusement, quand nous cherchons à avoir notre confort, ce qui est tout à fait juste, si nous ne sommes pas vigilants, nous le faisons toujours au détriment de notre croissance spirituelle, au détriment de notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Et le prophète interpelle le peuple sur cela. Le troisième et dernier enseignement que je nous ai encouragé à tirer de ce premier chapitre, avant d'aborder celui que nous venons de lire, c'était l'avant-dernier, pardon, le troisième, c'était d'avoir le cœur à l'ouvrage, se mettre au travail. Il faut savoir que malheureusement, lorsque le péché est au cœur de la vie d'une communauté comme le peuple de Dieu, lorsque le péché est au cœur de nos vies, cela affecte notre productivité. Cela affecte notre vie chrétienne, mais bien au-delà. Et parfois, il y a un leurre. Le leurre, parfois, c'est que quelques-uns qui sont malheureusement... Il arrive à chacun de nous de chuter. Chuter, c'est que malheureusement, nous sommes des êtres humains et il peut arriver que par mégarde, par manque d'attention, nous commettions des péchés. Par contre, si nous demeurons consciemment dans un péché que nous avons bien identifié, en ce moment-là, nous pouvons être malheureux parce que nous allons vivre les conséquences de cette vie dans le péché. Et le leurre, comme je disais, c'est que parfois, quelques-uns, lorsqu'ils sont ancrés dans cette vie de péché, leur vie sociale semble bien aller. Donc, du coup, ils se disent, finalement, c'est pas plus mal puisque ma vie sociale va bien. Donc, ça ne peut pas être un péché, parce que si c'était un péché, je n'aurais pas eu cette bénédiction entre griffes. Et c'est un gros leurre. C'est un gros leurre auquel il faut faire attention. Dieu est un Dieu de grâce. C'est ça qu'il faut constater. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un péché et que notre situation sociale, familiale semble bien aller que cela doit nous conforter dans cette position de péché. Non. La Bible dit que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu laisse le temps de la repentance aussi. Dieu n'est pas dans le tic au tac. Ce n'est pas parce qu'un de ses enfants a commencé à vivre dans le péché là qu'il va tout de suite agir. Il laisse un temps. Dieu est un pédagogue. Et c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Si on ne garde pas à l'esprit que c'est notre Père et qu'il est d'abord dans la pédagogie de nous rattraper avant de nous punir, on se convainc que ce n'est pas si mal que ça puisque finalement tout va bien. Non. Et le prophète âgé dit attention, attention. La désobéissance a des conséquences dans nos vies, a des conséquences dans nos familles. Et c'est pour cela qu'il invite le peuple à bien considérer ses voies. Et surtout, lorsqu'on est dans ce genre de situation, et le peuple était dans cette situation-là, et le quatrième enseignement, le prophète dit, acceptez l'aide de Dieu, parce que là où vous êtes tellement pétri de cette situation de sommeil spirituel et même de déclin, que vous n'êtes plus conscient que vos propres forces ne pourront pas vous faire sortir de là. Et vous avez besoin de l'aide de Dieu. Et le prophète dit, Dieu est disposé à vous aider. Dieu est avec vous. Je suis avec vous, dit le Seigneur. Et on voit que lorsque Zorobabel et Josué, donc les deux leaders du peuple, ont été conscients de ce sommet spirituel et qu'ils ont tendu la main vers Dieu, la Bible dit que Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, Dieu réveilla l'esprit de Josué. Il a donné une nouvelle dynamique spirituelle dans leur vie de communion avec Dieu. Et cela a eu un impact tellement positif sur le peuple. Et le peuple lui-même a été réveillé spirituellement par Dieu. Lorsque un peuple traverse des moments comme ça, où il n'arrive plus à discerner le bien et le mal, et qu'il est interpellé par Dieu, son secours ne peut venir que de Dieu, parce que de lui-même, il n'a plus la force de se relever. Alors, en conclusion de ce premier chapitre, pour ce rappel rapide que j'ai fait, notre grand Dieu nous appelle à mettre à la porte nos excuses et nos prétextes qui sont parfois très légers pour continuer à grandir dans notre vie chrétienne et pour nous engager dans l'œuvre de Dieu. En réalité, les 10 dernières années de vie chrétienne, pour ce qui me concerne, de lecture et d'étude de la parole de Dieu, et de formation m'ont donné d'être convaincu qu'un chrétien ne peut pas grandir, ne peut pas avoir une vie bénie s'il se met à l'écart de l'Église. S'il se met à l'écart de l'Église. S'il dit qu'il n'a pas besoin de l'Église parce qu'il est le temple de Dieu, en fait, c'est un faux prétexte. C'est une excuse qui n'a pas de valeur. Parce que la Bible dit que l'Église, étymologiquement, c'est le rassemblement de tous ceux que Dieu a sauvés. Donc si Dieu a créé l'Église pour rassembler tous ceux qu'il a sauvés, comment peux-tu dire que tu n'as pas besoin de ce rassemblement? Alors que justement Dieu l'a créé pour que nous soyons tous intégrés dans ce rassemblement. Et il me semble que c'est un piège que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, malheureusement, subissent en restant chez eux. L'Église de Dieu n'est pas parfaite. C'est une Église spirituelle, mais aussi humaine. L'Église de Dieu sera parfaite à l'avènement du Fils de Dieu, quand il la rendra irréprochable, sans ride, parfaite devant son Père. Et il y travaille. Selon Éphésiens chapitre 5, Jésus-Christ y travaille. Mais pendant qu'il y travaille, nous avons encore malheureusement des limites, des défauts en tant qu'Église, et que parfois, ces limites, ces défauts ne doivent pas être un obstacle à vivre l'Église de Dieu, à être dans l'Église de Dieu. Mon expérience personnelle, j'ai goûté la méchanceté dans l'Église. J'ai goûté le découragement dans l'Église. On a dû, en tant que couple, à un moment donné, changer aussi d'église. Parce que l'église où nous étions n'était plus en accord, en tout cas, avec notre appel et qui nous a été clairement dit que pour l'instant, ils considéraient que nous étions des simples chrétiens. On n'a pas tenu rancune pour cela. Nous étions convaincus que nous avions un appel et donc on est reparti en formation théologique et on a laissé Dieu faire les choses. Et 3 années après, Dieu nous a remis dans le ministère pastoral. Donc, je sais ce que c'est que d'être découragé, je sais ce que c'est que d'être déçu, je sais ce que c'est que de vivre des difficultés de compréhension, d'incompréhension dans l'Église. Mais, mon épouse et moi, Dieu nous a toujours convaincus que nous ne devions jamais rester à la maison, que nous devions toujours chercher une Église ou communier avec les frères ou œuvrer ensemble. Toujours. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce que sur ce chemin-là, nous avons découvert les églises de l'Alliance évangélique, de l'Alliance des églises évangéliques interdépendantes de l'AEI, il y a maintenant 10 ans de cela, et ses collègues nous ont tendu les bras et nous sommes bien reconnaissants parce que nous avons trouvé la famille de Dieu. Et nous avons retrouvé une église qui n'était pas parfaite. Elle avait aussi ses défauts, mais là, nous étions encouragés de rester pour vivre l'église de Dieu. J'ai fait cette longue parenthèse pour vous encourager. D'après ce texte biblique, l'une des applications fortes que moi je tire, c'est on ne peut pas avoir l'excuse de rester à la maison quand on est un chrétien qui cherche à grandir dans sa foi. On a besoin d'être dans une église pour grandir, mais aussi pour faire grandir cette église-là. Parce qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, chacun de nous, chacune de nous a son importance dans l'église locale. Amen. Pour le chapitre 2, ce que je viens de lire, qui semble un peu anachronique pour nous, mais c'est situé par rapport à ce que le prophète dit. Quand ils ont commencé à rebâtir le temple, en fait, il y avait des plus anciens qui se sont souvenus du temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'était un des joyaux de l'humanité. S'il était encore debout, on le classerait parmi les 7 merveilles du monde. Parce que quand on lit la description et que même certains ouvrages non chrétiens font la description de ce temple, c'était un joyau architectural, avec des matériaux de qualité et qui a été détruit. Et les anciens se souviennent. Donc, quand ils ont commencé à rebâtir le temple, ils n'étaient pas tout à fait contents parce que ce n'était pas la même gloire, ce n'était pas la même magnificence, ce n'était pas la même beauté. Et ça les a un peu découragés. Ils ont commencé à dire, oh là là, on rebâtit, mais quand même, ce n'est pas ça. Et donc, le prophète leur dit, quels sont parmi vous ceux qui ont connu le temple passé? Donc, il demande quels sont les survivants. Et il leur rappelle que même quand Salomon construisait ce temple avec autant de magnificence, Dieu a dit une chose. Dieu a dit, je n'habite pas dans une maison faite par des mains d'hommes, parce que je suis Dieu. Donc, tu vas construire un beau temple, mais sache que ma présence n'est pas liée à la beauté de ce temple. Ma présence est liée à la qualité de votre relation avec moi. Il dit, tant qu'Israël sera fidèle à mon alliance, ma présence sera dans ce temple-là. Mais si Israël faillit à cette alliance, je n'habiterai pas dans cette maison, aussi belle soit-elle. Et Israël n'avait pas compris. Parce que tant que le temple était debout, alors qu'ils étaient dans le péché, ils ont toujours cru que Dieu était là. Alors que quand on lit bien, lorsque le peuple est tombé dans le péché, la Bible dit que la gloire de Dieu a quitté le temple de Salomon. La gloire de Dieu a quitté le temple de Salomon. Vous pouvez bâtir une très belle édifice, et il y en a de très belles dans le monde entier, qui s'appelle Église, avec des matériaux de qualité. Moi, j'en ai visité quelques-unes et j'avoue que là, je suis émerveillé du génie humain qui peut construire de très belles. Bref, mais je suis triste parce que en visitant ces très belles édifices, ces très beaux monuments qui étaient dédiés à Dieu, il n'y a plus la présence de Dieu dedans. Pour certains d'entre eux, ils sont devenus que des musées. Et pourtant, ça continue de s'appeler église. Mais il n'y a plus de vie d'église dedans. Et pourtant, c'est des bâtiments qui sont beaux. C'est des édifices qui sont classés pour certains au patrimoine national. Et donc, Agé leur dit, ce n'est pas la beauté d'un édifice qui fait la présence de Dieu. Ce n'est pas la beauté d'un édifice qui fait la présence de Dieu. Même si c'est vrai que le beau et l'esthétique, Dieu aime aussi, mais ce n'est pas ça d'abord. Et il dit, la gloire de Dieu est dans l'obéissance. Si vous continuez à obéir, à reconstruire ce temple, peu importe s'il n'est pas égal à celui de Salomon, ma présence y sera, parce que c'est moi qui vous ai demandé de le rebâtir, parce que je veux à nouveau continuer à être en relation avec vous. Et c'est ça qu'il dit au peuple. Et il dit, fortifiez-vous. Fortifiez-vous, soyez fermes, ne vous laissez pas décourager. Il dit aux plus anciens qui avaient connu le bâtiment de Salomon, il dit ne découragez pas les autres. Ne découragez pas les autres, parce que vous savez ce qui est arrivé à ce bâtiment-là à cause de la qualité défaillante de votre vie en relation avec Dieu. Et le peuple a commencé à reprendre courage, parce que cette attitude négative de comparaison avait commencé à décourager. Et le prophète dit, non, soyez fortifiés, relevez-vous. Dieu habite là où son peuple le loue avec sainteté. Même si l'édifice n'est pas splendide à la gloire d'une architecture de qualité. Alors l'Éternel a encouragé le peuple en pressant les deux leaders que sont Zorobabel et Josué à être fermes, à se relever. Il les a exhortés trois fois. Fortifiez-vous, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Prenez courage. Et il dit ensuite, travaillez maintenant. Travaillez maintenant. Souvent, nous sommes aussi en tant que chrétiens dans la comparaison. Parfois, nous traversons des moments d'épreuve ou des moments qu'on appelle dans le jargon chrétien des déserts, c'est-à-dire où nous avons le sentiment que notre vie chrétienne est sèche et que tout ce que nous pouvons faire n'a pas d'élan ni de productivité spirituelle. Et nous sommes parfois dans la comparaison. Oh, ma vie d'avant, au début de ma foi chrétienne, il y a 2 ans de cela, ma vie était conséquente. Oui, c'est vrai, peut-être. Mais c'est pas en faisant la rétrospection qu'on se projette dans l'avenir. Certes, nous devons regarder en arrière, mais ce regard ne doit pas nous figer, ne doit pas être quelque chose qui nous ankylose. Ça doit être plutôt quelque chose qui nous dit, ok, peut mieux faire. Et même pour les églises aussi, parfois nous comparons notre histoire. Oh, il y a 10 ans, il y a 5 ans, nous étions comme si. Oui, c'est peut-être vrai. Mais c'est l'aujourd'hui de Dieu qui compte. C'est le demain, ce que Dieu veut faire demain. Avec ceux qui sont là maintenant, il faut avancer. Il faut marcher ensemble. Il faut s'accorder. Il faut se ressourcer dans le Seigneur et continuer à glorifier notre Dieu. Et le prophète dit que la gloire à venir va traiter quelque chose qui doit encourager le peuple pour son succès actuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, même si on a l'impression que de façon physique, de façon humaine, le temple que vous reconstruisez maintenant n'est pas d'égale gloire architecturale avec celle de Salomon, mais ce que Dieu va faire dans ce temple, c'est inédit. Parce que ce temple nouveau est la promesse de la venue du Christ. Et donc la gloire de ce temple à venir sera plus grande que la gloire du temple de Salomon. Parce que là, ce qui va se passer dans les années à venir, c'est que Dieu lui-même, il ne va plus juste manifester sa gloire dans le temple, il va venir tabernacler dans le monde. Il va venir visiter le monde. Et Jésus-Christ l'a fait. Pendant 33 ans, Dieu a visité le monde de sa présence. Et c'est ce que Agée annonçait déjà. Il disait au peuple de Dieu, ce que vous faites là, si vous obéissez à Dieu, c'est l'accomplissement de cette promesse qui va continuer à hâter l'avènement du Messie. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Église d'aujourd'hui, elle doit être une Église en action. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui hâte le deuxième retour du Christ. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui qui est comme une prophétie dans le retour de Jésus-Christ. Donc, si l'Église ne vit pas ce qu'elle est, quelque part, elle va faire obstacle aux prophéties. Mais Dieu dit, si l'Église fait obstacle, Dieu se suscite toujours d'autres moyens pour que sa prophétie se manifeste. Or, il est plutôt sain que nous soyons de ceux qui œuvrons pour que la parole de Dieu s'accomplisse, pour que les prophéties de Dieu s'accomplissent. N'est-ce pas? C'est nous qui sommes le peuple de Dieu. Nous sommes une race royale, un peuple élu, un sacerdoce de prêtres et de sacrificateurs. Nous sommes des enfants de Dieu, des pierres vivantes que Dieu a posées dans le monde pour bâtir son royaume. Tu es une pierre vivante, je suis une pierre vivante. Chaque chrétien qui a fait la paix avec Dieu est un fils, une fille de Dieu, un instrument utile, un vase de qualité dans les mains de son Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet de paix pour les humains. Dieu a un projet d'amour pour l'humanité. Et ce projet de paix et d'amour, Dieu le réalise jour après jour, seconde après seconde, avec l'action de l'Église, selon le plus tôt Éphésiens. L'apôtre Paul dit, c'est cette révélation que Dieu m'a donnée. Éphésiens chapitre 2, chapitre 3, il dit, c'est cette révélation, c'est ce mystère que Dieu m'a donné pour que je l'éclaire, pour que je le dise au monde entier, mais principalement aux enfants de Dieu, aux chrétiens, que dans les derniers temps, Dieu s'est choisi l'Église pour manifester son nom dans l'humanité. Et il s'adressait à une église locale qui s'appelait Éphèse. Et pour lui, cette église, c'était une petite église naissante. Ce n'était pas la grande super église que nous connaissons aujourd'hui. Et pourtant, il disait déjà, c'est par vous que Dieu a décidé de manifester sa grâce au monde entier. Bien-aimés, le prophète nous invite à nous engager, à mener une vie sainte au service de Dieu avec respect. Dieu promet que si l'Église continue d'être ce qu'elle est, il attire des hommes et des femmes à lui. C'est pour ça qu'il laisse l'Église dans le monde. L'Église est là comme la lumière. C'est ce que le Christ a dit. Il dit, vous êtes lumière. Il dit, quelle est la lumière lorsqu'il fait noir qu'on cache? Non, il dit, une lumière est faite pour être mise au-dessus, pour éclairer quand l'obscurité est là. Il dit, c'est vous, l'Église de Dieu. Il dit, nous sommes, il dit, vous êtes le sel de la terre. Hein? Il dit que dans les cultures qui utilisent le sel pour assaisonner, pour que l'aliment, pour que le repas ait une saveur, s'il n'y a pas cet ingrédient, bah, le repas, il est fade. Il dit, vous êtes le sel de la terre. C'est pour ça qu'il laisse l'Église dans le monde. Il faut en être bien conscient, bien aimé. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien, où que tu sois, tu es le sel. Pas de façon individuelle, mais avec, en connexion avec le peuple de Dieu. Mais quand même, individuellement aussi. Le prophète interpelle le peuple d'Israël en disant, vous êtes ce flambeau que Dieu tient dans la main. Vous êtes ce flambeau que Dieu tient dans la main. Et on a cette image dans l'Apocalypse, dans les lettres aux églises, le chandelier. Et le cœur du Christ, lorsqu'il écrit aux églises dans l'Apocalypse, est un peu triste. Parce qu'il fait quelques reproches, en tout cas, à six églises. Et à l'une d'entre elles, il dit, tu as perdu ton premier amour. C'est à l'église d'Éphèse qui dit cela. C'était une église où rayonnait la parole de Dieu, la sanctification. Et tu es devenu une église traditionnelle, où tout est tradition, culturelle, mais il n'y a plus de vie. Et moi, je demande toujours à Dieu de me faire la grâce de ne pas être un chrétien par habitude. Un chrétien par habitude finit par être un chrétien qui n'est plus éveillé spirituellement parce qu'il fait les choses par habitude, mais plus par conviction, plus par motivation, plus par zèle. Parce qu'il a eu l'habitude de venir à l'église les dimanches. Il continuera de venir à l'église les dimanches. Ça fait partie de ses habitudes. Ce qui est déjà bien. Ce qui est beaucoup et de loin bien. Mais si ça n'apporte pas quelque chose de nouveau dans sa relation à Dieu, si ça n'apporte pas quelque chose de particulier dans l'église où il va, finalement, que Dieu nous aide, bien-aimés. Et l'apôtre le dit, et le prophète le rappelle. Cette gloire, c'est la présence réelle du Seigneur. Le nouveau temple fait partie du plan de Dieu visant à établir sa présence sur la terre au bénéfice de toutes les nations. Toutes les nations. Je viens d'une mission de 3 semaines en Afrique et j'ai été frappé par ce que cette église fait dans la ruralité. C'est des pasteurs, c'est des chrétiens qui vont dans des petits hameaux, dans des petits villages et qui sont convaincus que même là-bas, au fond de la forêt, les gens ont besoin de la lumière de Jésus-Christ. Ils le font avec très peu de moyens, mais ils le font avec le zèle que Dieu leur donne. Et j'étais émerveillé de voir ça. Émerveillé. Je suis de ce pays et je ne savais même pas que dans mon église, il y avait une église, dans mon village, il y avait une église, en tout cas de cette union d'églises. Elle est bâtie depuis 1976. Et cette église est bien debout. Et ces chrétiens sont venus me visiter un soir et m'ont rendu le témoin de ce qu'ils font dans ce village. Et quand je connais l'histoire occulte de mon village, je suis bien content qu'il y ait cette lumière de l'évangile dans ce village, qui est encore tenue, qui est encore vivante, qui est encore zélée. Et j'ai réalisé en fait que peut-être nous nous minimisons, nous qui sommes des chrétiens d'Europe, mais en fait on ne devrait pas, parce qu'on est dans un contexte athée. Et pourtant, nous sommes là, des chrétiens bien vivants. Nous sommes plus de 50 dans cette salle. Ça veut dire que malgré le contexte athée, la lumière du Christ brille encore en France. Alléluia. Et cette lumière, c'est nous. Parce que malgré tout l'impact, toute l'influence que nous pouvons avoir, nous demeurons des chrétiens, nous demeurons des chrétiennes. Et c'est une grâce, bien-aimée. Et cette grâce-là, nous devons en être fiers et continuer de laisser cette lumière dans nos cœurs, attisée, brillante, ce feu du zèle de Dieu nous animer pour qu'ensemble nous puissions manifester la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour tous les hommes, toutes les femmes de cette communauté, engagées, impliquées, à quelque niveau que ce soit, pour que cette église reste une église vivante, une église qui proclame l'évangile de Jésus-Christ, une église qui annonce le salut en Jésus-Christ, une église qui accueille des chrétiens, qui les encourage et qui les aide aussi à s'impliquer et qui continue d'évangéliser, d'affermir et de faire l'œuvre de Dieu. Dieu promet que ceux qui sont de cet engagement-là, ceux qui se laissent encourager, verront sa bénédiction. Vous savez, la bénédiction a été trop souvent emballée dans l'enduit du matériel. On a tout de suite fait de faire la corrélation entre bénédiction et bonne situation sociale. On a vite fait de croire que la bénédiction, c'est d'être à l'abri du besoin seulement. Combien de gens sont à l'abri du besoin et pourtant. Je ne le redirai pas assez. Je suis toujours étonné que dans le milieu dit riche, il y a des gens qui se suicident. Je dis, je ne comprends pas, expliquez-moi un peu, parce que apparemment vous êtes à l'abri du besoin. Qu'est-ce que vous faites que vous vous suicidez? Donc on a bien compris que ce n'est pas la quantité du compte en banque qui donne la paix aux gens. Que parfois c'est bien le contraire. Que parfois c'est bien le contraire. Donc la première bénédiction que Dieu donne, c'est la paix du cœur, bien-aimé. Si vous n'avez pas expérimenté la paix du cœur, demandez à Dieu. C'est une paix qui n'a pas de prix. C'est une paix qui n'a pas de prix. Parce que cette paix-là, elle vous conduit dans toutes les situations, qu'elles soient des situations de joie ou des situations d'épreuve, à avoir une paix qui ne vient même pas de vous. Vous ne réalisez même pas pourquoi vous arrivez à être aussi serein et vous arrivez aussi à être détaché alors que vous êtes nanti. Hein? Parfois, quand Dieu bénit, le risque, c'est que la bénédiction nous emporte dans la mondanité. Alors que quand on a la paix du cœur, malgré les bénédictions de Dieu, on est serein. On n'est pas emporté dans un flot d'orgueil ou d'autosuffisance. Non, on est plutôt généreux. On est plutôt quelqu'un qui pense aux autres lorsque Dieu nous bénit. On est plutôt quelqu'un qui aime investir aussi dans l'église de Dieu. Et on a cette paix avec l'argent. On a cette paix avec le bien matériel. On n'est pas esclave de l'argent. On n'est pas esclave du bien matériel parce que Dieu nous a donné cette paix-là. Et quand on a cette paix, même quand on traverse des moments difficiles, on pleure des fois. Des fois, on est un peu en colère vis-à-vis de Dieu parce qu'on dit, mais quand même, Seigneur, je me suis gardé pur pour toi et pourtant. Mais après ça, Dieu nous donne la paix de persévérer, de ne pas nous compromettre, de ne pas chercher des situations ou des chemins qui ne sont pas à sa gloire. Que Dieu nous garde pur. Et c'est ce qu'il demande et c'est ce qu'il dit dans la dernière partie de ce texte. Il demande au prêtre, il dit, est-ce que lorsqu'on a sanctifié, parce que c'était ça, c'est les rituels en Israël, lorsqu'une viande est offerte à Dieu et qui doit être mise sur l'autel, en fait, cette viande sacrifiée et purifiée purifie l'habit du prêtre. Donc le prêtre, en fait, il est sanctifié par le sacrifice sanctifié qu'il va apporter. Et il demande au prêtre, il dit, bon, est-ce que si cette viande, toi, t'as sanctifié et que ta tunique qui a été sanctifiée touche un autre aliment, est-ce que cet aliment est sanctifié? Selon la loi lévitique, non, cet aliment n'est pas sanctifié. Parce qu'il y a un connecteur indirect. C'est-à-dire que la viande sanctifie ce qui la touche directement, donc la tenue du sacrificateur. Mais si la tenue, elle, qui est sanctifiée, touche un autre aliment, mais l'aliment, il n'est pas sanctifié, puisque ce n'est pas la tenue qui a été sanctifiée, c'est la viande. Donc il dit, et ça c'est une parole très forte, il dit, si quelqu'un est sanctifié, est-ce pour autant qu'il sanctifie celui qui le touche? Et il dit non, parce que celui qui sanctifie, c'est Dieu. Donc l'autre personne, elle doit être connectée à Dieu pour être sanctifiée, pas par un intermédiaire. Pas par un intermédiaire. C'est pour ça, nous qui sommes des chrétiens, nos enfants ne sont pas des chrétiens. Ils ont besoin de faire la paix avec Dieu pour être des chrétiens. Parce que c'est avec Dieu qu'ils seront sanctifiés en Jésus-Christ et pas avec nous. Nous, nous sommes des pédagogues, nous sommes des éducateurs, nous sommes des moyens qui vont leur permettre à un moment donné de se connecter à Dieu. Et c'est là qu'ils seront sanctifiés. Et c'est ce que le prophète leur dit. Il dit par contre, si selon la loi lévitique, quelqu'un a été impur en touchant un cadavre, est-ce que s'il touche quelqu'un d'autre, la personne est impure? Oui, selon le lévitique, oui, la personne est impure. Ah, c'est pas juste. Parce que le mal contamine plus vite que la sanctification. Le mal est contagieux plus rapidement que la sanctification, que la pureté. Ben, on le voit. Pourquoi on a des masques? Parce qu'il y a cette maladie. Même si nous n'avons pas de symptômes, on nous dit de mettre des masques. Pourquoi? Parce que ceux qui sont saints ne vont pas forcément contaminer les autres à être guéris. Non. S'il y a quelqu'un qui a le Covid dans la salle et que 20 autres n'ont pas le Covid, ben ça ne va pas guérir la personne qui a le Covid. Par contre, s'il y a un seul qui a le Covid et qu'il est au milieu de nous, ben il risque de nous contaminer presque tous. Et c'est ça le mal. Le mal a ce pouvoir, malheureusement, d'être contagieux. Et il dit, c'est ce que vous êtes, Israël. De sorte que tout ce que vous faites est impur. Le culte que vous me rendez impur parce que vous-même vous êtes impur. Parce que vous-même vous êtes désobéissant. Sanctifiez-vous. Purifiez vos voies. C'est une invitation, bien-aimé. C'est une invitation à considérer que nous sommes le peuple de la sainteté. Et que sur ce chemin-là, nous devons demander la grâce de Dieu. Voilà ce que le prophète voulait nous communiquer ce matin. Et il dit que Dieu est un Dieu qui bénit son peuple. N'est-ce pas? Dieu va bénir. Dieu va bénir. C'est comme ça que le texte se termine. N'est-ce pas? Le verset 19 se termine en disant, À partir de ce jour, je vais bénir. À partir de ce jour, je vais bénir. Je prie que cette année scolaire qui redémarre soit une année de bénédiction, de paix avec Dieu et de bénédiction pour chacun de nous, bien-aimés. Renouvellement spirituel dans le cœur et nouvel élan dans le service du Seigneur. Renouvellement spirituel dans le cœur et nouvel élan dans le service de Dieu dans l'Église. Amen. Que le nom de Dieu soit béni.